Bonjour, bonsoir, c'est Manu Minel et je suis heureux de vous présenter ce deuxième épisode de Radio Cassette. On vous raconte dans ce podcast l'histoire des disques cultes qui ont marqué nos années 90, honnêtement, et sans fioriture. On enregistre cette émission le 5 mars 2019, presque 20 ans après la parution de l'album Play de Richard Melville Hall, alias Moby. C'est son cinquième album, il est sorti le 15 mai 1999, c'était sur le label Mute chez BMG. On en parle aujourd'hui avec Fanny Gignès.
Salut.
Gaspard Rougeau.
Salut.
Et Thomas Petit.
Salut tout le monde.
Voilà, alors Moby, rentrons dans le sujet, ça vous évoque quoi?
Alors moi, le souvenir de Moby que j'ai à l'époque, c'est le morceau qui était sorti dans la BO de The Beach de Danny Boyle. C'était le premier film de DiCaprio juste après la sortie de Titanic. Donc j'étais allée le voir en salle direct, j'attendais ça comme une ouf. Et je me rappelle vraiment d'un gros matraquage radio, les morceaux tournaient partout, c'était incontournable. Je crois que j'aimais bien les singles, j'avais pas acheté l'album de Moby, mais c'est une musique qu'on entendait beaucoup et qui me parlait assez, surtout le morceau Natural Blues. Est-ce qu'on peut en réécouter un extrait? Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Alors pour la blague, depuis toutes ces années en fait, j'étais persuadée que cette chanson, le chant qu'on entend, c'était un chant d'Indien d'Amérique. Et j'ai appris la semaine dernière, en préparant cette émission avec Manu, que pas du tout. En fait, j'avais confondu avec un morceau qui s'appelle Yaa Noah de Sacred Spirit, qui était sorti genre un ou deux ans ou deux avant.
Je me souviens de ce morceau. C'était sur TF1 à l'époque où il y avait la battle TF1 France 2, tout le monde avait son tube de l'été. Et ça passait, c'était inévitable, avant le JT, avant la météo, après la météo, non-stop quoi.
En tout cas, je suis rassurée de me rendre compte que j'étais pas la seule à avoir fait cette petite confusion dans mon esprit.
Bah écoute, j'ai l'impression qu'un mythe s'effondre pour toi. En tout cas, moi je me souviens très bien que quand je l'ai écouté la première fois, c'était dans l'émission Ketchup and Marmalade sur Wii FM 102.3. Je connaissais déjà les précédents trucs qu'il avait fait, Moby, parce qu'il avait fait notamment une reprise du thème de James Bond, ce avec Pierce Brosnan. Ah, moi j'avais acheté direct le compact disque à la Fnac parce que j'étais assez fan, ben, c'était Natural Blues à l'époque que j'avais écouté en premier. Et voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté cet album et pour moi ça correspond à la fin de la quatrième et des vacances au Cap Ferret, c'était la bande-son de l'été 99 quoi. Alors bon, ce disque, il est un petit peu différent de ses précédents albums, c'est un disque avec une inspiration très blues, Gaspard?
Oui, avec beaucoup de samples, comme on sait bien, c'est un peu la matière première de cet album. Et le sample venant de la culture de Moby, c'est donc tout naturel, il en utilise depuis le début. Sachant que c'était un DJ de la scène new-yorkaise des années 80-90, il a écumé tous les clubs, mais pas seulement électronique. Et il a joué beaucoup de hip-hop et de fashion show, donc il n'est pas à son premier coup d'essai. Et il utilisait souvent des samples de voix black et des drum rolls assez incroyables et
c'est vraiment ça,
de mauvais goût. Et aussi, ouais, des grosses basses. Enfin, le son qu'il a fait connaître en 90-92, c'était Go, avec un gros sample des cordes de Angelo Badalamenti, Twin Peaks. Et lui, donc, venant de la culture rave, il a, dans les années 92, vu le changement à l'heure où tout le monde était content d'aller danser. La musique devenait plus dark, les Z-Rock devenaient plus durs, et c'était un cercle vicieux comme ça. C'est pour ça qu'il avait fait un album avant Play, un peu plus rock ou hardcore punk, qui a pas marché du tout. Et il s'est dit, bon, bah, je vais retourner à mes sources, un peu désillusionné, un peu perdu. Il se disait que c'était son dernier album.
Peut-être qu'on peut écouter quelques samples qu'il a utilisés.
Ça c'est Moby?
Non, ah ouais, c'est si, si, il va sampler si cette partie.
Si, on l'entend, et c'est les violons.
Il est joué en reverse.
Ah ouais? Ouais!
C'est lui, ça, en c'est fait, le ça c'est le sample original. Ouais.
Voilà,
ouais.
C'est le sample original qui est à l'origine.
T'as raison.
À l'origine, à l'endroit, joué normalement, et lui il va les jouer en reverse. Il va faire la matière première de Porcelaine.
Leonardo!
qu'il aime beaucoup les pianos super bien espacés dans ses mix sur des vagues de cordes.
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble
for God. Il l'a repris en l'état, quoi.
Ce qui est cool, c'est quand on entend ça, on se dit qu'il est pas mauvais, quand même.
Il est pas mauvais, en même temps, il a 50% du boulot, il est déjà fait.
Mais c'est un des rares à quand même créditer les chanteurs et l'enregistreur original de des chansons, Alan Lomax, entre autres.
Ah, c'est laquelle celle-là ?
Ça, c'est CCR, Creedence Clearwater Revival. Et ils l'ont utilisé dans The Sky is Broken.
In the middle of the night, nothing left here for me. It's washed away. Why does my heart?
Does My Heart Feel So Bad, excellent morceau également, et tu peux nous en dire un peu plus sur Alan Lomax ?
Alors Alan Lomax, c'était un ethnomusicologiste qui donnait quelques conférences dans les États-Unis dans les années 20-30, pendant la grosse dépression. Il a aussi perdu sa femme, du coup il est parti sur la route avec son fils, là on parlait de Alan, donc c'est John le père, et qui est parti avec son fils Alan enregistrer ses fameux Noir américain et pas que. Il a aussi beaucoup enregistré les cowboys de tout genre, les mexicains. Et il a vraiment constitué un répertoire qui est maintenant reconnu. C'est un des mérites que je reconnais à Moby, c'était de m'avoir fait découvrir ces samples magnifiques, Vera Hall.
Surnatural Blues.
Surnatural Blues, oui. C'est ça, la prouesse d'un producteur, c'est de retrouver des sons anciens et les réarranger. Après, l'arrangement, on aime ou on n'aime pas, mais il a ce don quand même de trouver des perles.
C'est clair, et de les présenter au grand jour et de faire redécouvrir ces petits trésors cachés. On a parlé un petit peu du making-of de ce disque, et puis il y a l'artwork. Il y a un moment où il faut choisir une cover. Et alors, la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qu'il fait à sauter comme ça, Moby ? Qu'est-ce qu'il fout en l'air ?
C'est
quoi son problème ?
C'est intéressant son artwork,
Thomas...
parce que finalement, ça dit beaucoup de choses sur Moby. Alors, il faut savoir que l'artwork... C'est une photo d'une photographe britannique qui s'appelle Corinne Day, qui est plutôt une photographe de mode à la base, et qui a aussi fait Placebo, Without You I'm Nothing, donc elle n'était pas novice. Alors sur la photo, on y voit Moby en train de sauter en l'air. Alors en réalité, il est en train de sauter sur un lit, dans une chambre d'hôtel un peu anonyme. Et on y voit, comment ça s'appelle le matériel ?
Un luxomètre. Le luxomètre qui permet de faire des réglages sur un shooting photo pour vérifier qu'on a la bonne ouverture, voilà. Bonne prise de lumière.
Donc en gros, il se fait photographier un peu sur le shooting, il se met un peu à nu. Alors ce qui est rigolo, c'est que vraiment la cover de l'album, c'est Moby en train de sauter, de faire le fou, de s'amuser. Et son album, il s'appelle Play. Alors Play, pour la petite histoire, il a trouvé ça sur un... une aire de jeu pour enfants à New York, et il s'est dit ouais, donc ça me plaît, je vais l'utiliser. La cover en elle-même, elle est très simple, en dehors de la photo du nom de l'album et du nom de Moby, il y a juste le symbole play en rouge en bas à droite, et après quand on retourne, on a le dos de l'album, et là c'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on a une photo toujours issue du même shooting, et c'est Moby qui est debout, un peu l'air éberlué. Il est immobile, et puis c'est un peu comme si la fête était finie.
Il y a un avant, un après, quoi.
Voilà. On ressent un petit peu les deux facettes de la personnalité de Moby, c'est-à-dire que quand tu écoutes l'album Play, il y a clairement un début sur des chansons qui sont hyper entraînantes. Les premières chansons de l'album, c'est vraiment des chansons pop. Et à la fin de l'album, ben voilà, on est presque sur une tristesse de Moby. Voilà, ça dit quand même des choses sur Moby, qui est un personnage très excessif, peut-être bipolaire presque.
On y va, ce soir, Moby sur le divan.
En tout cas, c'est ça qu'on entend un petit peu dans cet album, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans un excès d'enthousiasme, C'est un touche-à-tout, fourre-tout, ouais. Il veut faire plein de choses à la fois, et en même temps, bah, y a vraiment une mélancolie qui est sous-jacente à sa musique, et qui finit par prendre le dessus au fur et à mesure de l'album. Voilà.
Bah, merci docteur. Thomas, tu pourrais nous parler également de l'intérieur du livret, parce que je crois qu'il se lâche un peu.
Ouais, exactement. Alors à l'intérieur du livret, on a plusieurs textes qui vont parler. Alors c'est des essais rédigés par Moby. Il va traiter successivement du végétalisme, du fondamentalisme.
Alors qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme ?
De l'humanisme. Alors Moby nous en parle. Non, bon, sans rire, en fait, ce qui est drôle, c'est que les écrits ont vraiment pas de lien avec l'album, ni avec les chansons, ni avec les paroles. Et ça montre, bon, Moby, c'est un personnage très engagé.
Il était voué à devenir professeur de philosophie si cet album se plantait. Ah, ou
comme ça. Ouais. Alors, bon, on Marc de Gaspard.
C'est vraiment un personnage qui a toujours été très engagé, y compris politiquement, qui essaye de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Voilà, donc on vous invite bien sûr à lire ces textes hein, qui sont très, très intéressants pour s'endormir. Et alors, on pourrait parler un petit peu des clips, parce que alors là, côté clip, c'est un touche-à-tout, encore une fois.
Exactement, en fait, là aussi, les clips sont très éclectiques, sont très différents. Donc l'album, il a hyper bien fonctionné. Donc il y a eu 8 clips, je crois. Alors tous les clips ont été faits par la crème de la crème des réalisateurs vidéo de l'époque. Donc celui de Honey qui lance l'album, c'est Roman Coppola, le fils de Francis Ford, qui donc a fait un clip un peu à la manière d'un Michel Gondry, c'est-à-dire c'est vraiment plein de trucage. On a Porcelaine qui a été fait par le réalisateur suédois Jonas Åkerlund. Et là, on est sur un truc avec plein de surimpressions, très années 90, ça a super mal vieilli. C'est assez drôle de regarder ça avec des images de la galaxie sur un œil en surimpression et même un lancer de colombe. Enfin, c'est...
Alors, ce qui est marrant, c'est que ce clip, il a été samplé en même temps que le titre sur un titre de A$AP Rocky. Gang, them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang, I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob. Shout out to the lords and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars. I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind. We kiss the Frank Ocean and blind. A$AP Rocky qui a repris donc le morceau Porcelaine sur l'album. Et voilà, joli clin d'œil. Et bien sûr, le clip est super bien. On vous invite à le voir. Faites un petit tour sur YouTube.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a souvent fait plusieurs clips pour une même chanson. Clip de Body Rock. Par exemple, il a eu 3 versions différentes, 3 versions vraiment, une qui est un petit peu scénarisée, une où on voit comme s'il avait fait passer un essai à des danseurs sur scène pour qui dansent sur la musique, et puis une dernière version complètement différente. Et puis, il y a aussi Natural Blues. Natural Blues qui a eu le droit à 2 clips différents. Le premier, pas n'importe qui, David LaChapelle. Donc, lui, il en était à ses débuts, mais David LaChapelle, ça va devenir un des grands réalisateurs vidéo. Donc, on y voit Moby, qui est devenu tout vieux et qui est dans sa maison de retraite.
Ultra déprimant, quand même.
Ultra déprimant et qui en est devenu kitsch, en fait. ça a vraiment vieilli quand tu regardes ça. Et puis, en fait, il va se mettre devant la salle commune, devant un écran de télévision.
Il est en maison de retraite, c'est la fin de ses jours, ouais. Et il est en train de passer.
Et puis, finalement, en regardant la télévision, il va avoir des images, les moments les plus forts de sa vie. Et il y a un ange qui va arriver, un ange joué par Christina Ricci. C'est, voilà.
C'est celle qu'on voit avec Johnny Depp dans Sleepy Hollow, chez Tim Burton en tout cas.
Ouais, et puis c'est Mercredi de la famille Adams, ah. Exactement. Et elle aussi, c'est rigolo, elle a un peu disparu de la circulation, elle symbolise vraiment les années 90. Et voilà, donc on est sur un truc un peu kitsch, et puis finalement, il a fait une deuxième version.
Alors cette version, c'est avec un petit personnage, ouais. Qui s'appelle Little Idiot.
Voilà, Little Idiot, donc c'est un cartoon, donc c'est un clip animé. Et c'est le même personnage qu'on va voir dans la deuxième version de Natural Blues et dans le clip de Why Does My Heart Feel So Bad. Et ce personnage, en fait, c'est un personnage qui est important pour Moby parce que c'est lui qui l'a créé. Il l'a créé avant de vraiment devenir une célébrité sur la scène musicale. Il a travaillé à un moment donné chez un disquaire, il préparait les sacs, et alors il avait comme mission de faire des dessins sur les sacs, et il a trouvé ce personnage qui est devenu un symbole pour lui de sa solitude, de sa mélancolie. Donc c'est un petit personnage qui est dans les deux clips, hein, Natural Blues et Why Does My Heart Feel So Bad, un personnage solitaire qui est tout seul avec son chien, qui part à l'aventure dans le monde, qui essaye de se faire des amis, il n'y arrive pas. Ben voilà, Moby, c'est un peu ses deux facettes. Quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de s'amuser avec tout le monde, et qui a le sentiment, peut-être à l'époque de Play, de ne pas réussir à s'amuser avec les gens.
Merci beaucoup Thomas. En fait, ce qui est incroyable avec ce disque, c'est son utilisation, et particulièrement parce qu'au début, à sa sortie, c'était assez confidentiel. Ce qui finalement est devenu le disque qu'on entendait partout, à la radio, à la télé, dans ton supermarché. Même en fait, je me souviens, les gros blaireaux de ma classe écoutaient Moby.
Le premier disque dans l'industrie musicale dont tous les titres ont été utilisés en pub ou en film.
Exactement, Gaspard. Justement, donc le disque comporte 17 morceaux et les 17 morceaux ont été vendus dans le but d'une utilisation commerciale. Et à peu près un an après que l'album soit sorti, on recensait déjà une soixantaine de publicités dans le monde entier, illustrées par du Moby, donc ce qui est, je pense, du jamais vu. Il y a plein de marques d'univers très différents à avoir utilisé cette musique, des marques pour des voitures, pour de l'alcool, des cartes de crédit, du chocolat, des téléphones portables. J'ai l'impression un peu Moby a bouffé un peu à tous les râteliers, mais c'est tant mieux pour lui, parce que ça prouve que sa musique a quelque chose d'universel.
Complètement, parce que on l'entend partout en fait, on l'entend dans des pubs de café. Je me souviens qu'à l'époque il y avait deux pubs qui passaient un morceau de Moby en même temps, deux pubs pour du café, c'était Maxwell d'un côté.
Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est effectivement cette pub pour le café Maxwell, qui est illustrée par le titre Honey. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut ajouter, enfin, on peut noter l'ajout de guitare au début et à la fin du spot, qui reprend ce thème. Très beau, magnifique. Ce thème de Maxwell en mode un peu bluesman. Il y avait aussi effectivement une autre pub pour une autre marque, qui était la Maison du Café, avec le morceau Natural Blues.
Qu'est-ce qui a compté pour vous aujourd'hui ?
Lui. Elle. Moi. Toi.
Le meilleur de la vie. Maison du Café.
Ouah, ça donne directement envie d'en acheter. Là, je vais filer au magasin. C'est marrant. En fait, au départ, Fanny, sans le gros coup de pouce des synchro pubs, c'était pas gagné, quoi.
Pas du tout. L'album, il est sorti, donc on a dit tout à l'heure, en mai 99. Mais il est devenu un vrai carton en termes de vente et d'audience seulement 10 mois plus tard, à peu près au début de l'an 2000. La presse, quand l'album est sorti, n'était pas super enthousiaste. Les radios ne voulaient pas diffuser spécialement les trois titres qui étaient sortis comme single. Ça sentait un peu le roussi, même aux États-Unis. Et j'ai lu une interview intéressante à ce sujet du manager de Moby, dans laquelle il explique qu'en fait, c'est le fait d'être signé sur un label indépendant anglais qui s'appelle Mute Records qui les a aidés. Parce que l'équipe en Angleterre, contrairement aux États-Unis, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a continué à faire du matraquage et faire de la promo à fond jusqu'à ce que la mayonnaise prenne, donc 7 ou 8 mois plus tard. Puisque le circuit classique de la promo presse n'avait pas fonctionné, donc ils sont passés par la case publicité et là c'était l'énorme jackpot.
Oui, bizarrement ça avait bien marché en France au début, enfin le petit single ça avait mieux marché en France et en Angleterre qu'aux États-Unis.
Oui, en France, l'album, il a été numéro 1, en Angleterre aussi, donc Canada, Australie, Allemagne, et puis le suite de tout le reste de la planète a suivi. L'album, il a été nommé aux Grammys, il a gagné un MTV Music Award, et là, aujourd'hui, on est 20 ans après la sortie de l'album, on parle de 10 millions d'exemplaires vendus. Donc quand on sait que le premier album de Moby, enfin l'album précédent, pardon, de Moby avait plafonné à 25 000 ventes, on peut saluer la performance, et peu importe les chemins empruntés, j'ai envie de dire.
Et pour la petite histoire, la légende veut que Moby, croyant que son album était un échec, reçoit un coup de téléphone. On lui annonce qu'il est numéro 1 en Angleterre. Voilà, il le met en avant dans ses interviews. C'est vraiment une petite légende.
Moi, j'étais très content d'en parler avec vous et j'étais super content de pouvoir réécouter cet album 20 ans plus tard. Franchement, ce disque était entre-temps totalement tombé aux oubliettes pour moi. Voilà, il était rangé dans la chambre de mes parents. Je n'y vais plus. Enfin, dans ma chambre chez mes parents. Voilà, j'ai fait vraiment une overdose de Natural Blues et compagnie. Et pour moi, il s'était vraiment grillé à force d'être matraqué dans la pub, quoi. C'était le fait que je l'avais découvert au début, que tout d'un coup, il soit surexposé, que n'importe qui soit capable de fredonner ça.
Après, il y a un peu un côté qui est dû à la musique même, parce que c'est des samples qui reviennent en boucle. Et au bout d'un moment, finalement, les musiques, elles sont très simples. Donc tu les as écoutées. T'en as un peu marre au bout d'un moment.
Oui, en fin de compte, j'ai plus écouté l'original de Vera Hall que Natural Blues.
C'est vrai ?
Oui, parce que c'était tellement émouvant que je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce qui se passe là ? Et je suis allé chercher dans les mêmes disques qu'il a lui-même chiné et samplé. Bon, c'était pas le premier à faire ça. Nous, en Europe, on avait les Chemical Brothers qui samplaient du rock. On avait Prodigy, Paix à son âme. Et Daft Punk, bon, enfin, toute la génération des gros sampleurs de la dance music et qui payent un hommage à toute cette belle musique.
Tu vois, ce que je trouve marrant, Gaspard, c'est que ce disque, en fait, pendant un temps, je le trouvais assez daté. Je trouvais que quand même, il avait cette patte années 90.
Je le trouve toujours daté, moi aussi.
Voilà, d'ailleurs, moi, j'ai une petite théorie sur les disques électro, mais bon, j'y reviendrai un autre jour. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de le réécouter. En fait, je me suis retrouvé il y a 15 jours, je prenais ma caisse, j'étais en train de faire un petit trajet, il était minuit ou 1h du mat. J'allume WeFM, je suis désolé, je parle beaucoup de WeFM, mais c'est ce qui a accompagné beaucoup de mes découvertes quand j'étais adolescent. Là, j'écoute WeFM pour voir ce qui passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient. Vraiment par hasard, je tombe sur Natural Blues. Là, je suis tout seul, je le mets à fond les ballons et je me suis vraiment fait un gros kiff, quoi. Le morceau est absolument génial. Ça a été comme la première fois, ça a fait remonter plein de trucs. Et au global, en dehors de style, je trouve que l'album est très bon. Il a finalement pas tellement vieilli à part quelques trucs à la marge.
Écouter, ouais, à partir du 10e titre, tu connais, bon, il y a les 10 premiers titres, c'est 10 tubes.
Ouais.
Et après, il te reste 8 ou 9 morceaux. T'entends ça, tu te dis, c'est un petit mec dans son home studio. Il est en train de chanter, faire un vieux sample de flûte, de pan, des guitares, on sait pas ce qu'il dit.
J'aime faire découvrir.
Et on a l'impression que c'est moins produit et j'avais peut-être même pas écouté ces morceaux.
En fait, ce qui est marrant, c'est que lui, dans ses interviews aujourd'hui, Moby, lui-même, il en a soupé hein, de son album. Il n'aime plus les premiers morceaux de l'album.
Il a fait un remaster, d'ailleurs, il a remixé, je crois, il a fait une nouvelle sortie, je sais pas, il y a quelques années. De son album avec de nouveaux arrangements.
Ah ouais.
Il a polissé le truc. Ouais.
Et il raconte que, en fait, lui, vraiment ses morceaux préférés, c'est les morceaux de la fin de l'album. Et les morceaux.
Les morceaux plus calmes, en fait.
Ouais, les morceaux plus calmes, qu'il a fait presque de manière amateur. Bon, on a le droit de pas trouver que c'est les meilleurs, mais en tout cas, lui, aujourd'hui, c'est ceux qu'il préfère.
Pourtant, oui, il a un truc. C'est un fan de Bowie, c'est un fan de Lou Reed, et on l'entend dans sa voix. Parce que c'est pour ça que je préfère Porcelaine, en fait, parce que c'est là où il chante, où il parle, et il apporte un traitement un peu différent, où c'est pas que du sample. Bon, il y a du sample des cordes, quelque part, il s'invente un rôle de songwriter et qui va développer après sur d'autres albums.
C'est marrant ce que tu dis parce que je regardais pour préparer l'émission un live qu'il a fait à Nulle Part Ailleurs et il joue Natural Blues. Alors la question c'est comment tu vas pouvoir jouer ce morceau en live vu que ça repose sur un sample à 50% minimum. Ouais. Donc en fait qu'est-ce qui se passe ? Il passe le sample et au bout d'un moment il chante en même temps que le sample. Alors c'est pas un chanteur, c'est assez marrant. Je vous invite à regarder, voilà. C'est pas le meilleur live.
Glastonbury, il chante Porcelaine devant 50 000 personnes, c'est drôle.
Ouais.
En live, tu irais pas voir Moby, quoi. Tu te dis ouais, non.
Mais d'ailleurs, il raconte un peu des histoires sur Porcelaine au début de l'album, au début de la sortie de l'album, où quand il faisait des concerts.
Il serait allé à Limoges.
Ouais. En fait, il raconte que Porcelaine, c'est vraiment le morceau où les gens allaient acheter une bière et arrêter d'écouter parce que ça fonctionnait pas en live. Okay. Et à partir du moment où le film La Plage est sorti, là, c'est devenu un morceau culte. Et clairement, c'était un des moments forts de ces concerts à venir.
Ça devenait le gros morceau de Lover pour aller embrasser ta copine. Ouais. Alors moi, j'avais un truc sur le track listing. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que la moitié de l'album, on enchaîne les tubes. C'est que des trucs hyper tempo, chambés, tu les accroches directement.
Répétitif.
Et puis à partir de la dixième, t'as une espèce d'interlude. Et puis alors après... C'est complètement léthargique. On a un truc en mode nature et découverte, chill, petit piano.
Mais en même temps, qui fait des albums avec 17 morceaux ? C'est
18, je crois, non ?
17.
Ouais, 17.
Non, c'est énorme. Et finalement, on se dit, quand on savait que pour lui, ça serait peut-être son dernier album, son Chant du Cygne, il a voulu tout caser. YOLO, je mets 17 morceaux, je mets tout, je mets la flûte de pan, je mets les trucs. Et en même temps, bon, il en avait encore sous le coude parce qu'il y a quelques trucs pas mal. Et
en même temps, il n'a pas tout casé parce qu'il a fait des B-sides. Donc il y a aussi un album.
Il en avait encore sous le coude, voilà, Thomas, pour après, c'est clair. Et c'est marrant, je lisais un article il n'y a pas longtemps sur l'art du track listing, qui est en fait souvent un enjeu entre le label, qui a plutôt une vision marketing, et puis l'artiste qui veut avoir quelque chose qui lui ressemble le plus. Et finalement, tu as des gros enjeux, des discussions qui peuvent durer des semaines sur quel morceau mettre en premier pour raconter quelle histoire. Et là, on a l'impression que c'est un peu le label qui a gagné, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre les tubes au début, et puis pour faire plaisir à Moby, on lui met on va dire les B-sides à la fin, quoi.
Mais après, ça raconte vraiment son histoire à lui, hein, cet album. C'est vraiment les deux facettes de Moby. Un artiste un petit peu enthousiaste, mais
un peu triste à la fois.
Voilà, c'est un petit peu le Little Idiot, finalement, Moby.
Très belle conclusion. Est-ce que Fanny, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non.
Eh bien, très bien. Je crois que ça va être sur ce dernier mot que va se terminer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était notre avis sur Play de Moby. On avait envie de le partager avec vous. C'était un des disques cultes de nos suites 90s. On remercie nos invités. Je voudrais remercier Gaspard.
Merci.
Je voudrais remercier Thomas.
Merci.
Et Fanny.
Merci.
Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé ou si vous avez détesté, si vous avez des souvenirs ou des suggestions d'albums qui ont marqué vos années 90, dites-le nous en laissant un commentaire sur iTunes SVP. On se quitte avec Natural Blues, bien entendu.
Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.